Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Les vaccins sont bien efficaces pour bloquer la transmission du virus. Une vaste étude britannique montre que dès la première dose, le risque de transmettre baisse de moitié. À Lyon, on teste un appareil qui détecte le virus dans l'air expiré, celui qu'on souffle, comme dans un éthylotest. Des sanctions contre les militaires signataires de la tribune de Valeurs Actuelles. 18 officiels actifs passeront devant un conseil militaire. Joe Biden veut transformer l'Amérique. Discours ambitieux devant le Congrès cette nuit, au terme de ses 100 premiers jours de mandat. Et puis on tentera de comprendre quelles ont été les failles du Paris Saint-Germain défait par Manchester hier soir 2-1. Invité d'Europe Midi, la romancière italienne Simonetta Greggio, au moment où toute l'Italie semble se réjouir de l'arrestation en France des vieux brigadistes des années de plomb.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les vaccins efficace pour stopper la transmission du virus, c'est confirmé. Une étude anglaise de grande ampleur vient de lever les derniers doutes, Victor Dolande.
Oui, l'agence publique de santé anglaise a lancé une vaste étude sur près de 57 000 personnes appartenant à 24 000 ménages où une personne vaccinée a été testée positive. Et ces personnes n'avaient reçu qu'une seule dose du vaccin AstraZeneca ou Pfizer. On les a ensuite comparées à un groupe d'un million de personnes non vaccinées. Résultat, 3 semaines après l'injection, les personnes vaccinées ont 50% de risque en moins de contaminer un membre du foyer par rapport aux personnes non vaccinées. Et le risque diminue plus les semaines avancent. Des chiffres très intéressants pour Morgan Bumsell, immunologiste à l'Institut Cochin.
C'est une excellente nouvelle, d'autant plus que c'est des chiffres qui sont aussi observés en Israël et dans d'autres études, où en fait, dès la première dose, on arrive à observer une réduction de la transmission de 75% environ par rapport aux personnes qui ne sont pas vaccinées.
Et selon les scientifiques, le risque de transmettre la maladie devrait encore chuter avec la seconde dose, et donc de manière mathématique, comme on l'a déjà observé chez les résidents d'EHPAD vaccinés en très grande majorité en France, plus la vaccination va gagner du terrain et plus la courbe des contaminations, elle, va diminuer.
Victor Dolande, le vaccin pour les enfants, possible dans les prochains mois. Pfizer et BioNTech vont déposer une demande d'autorisation en Europe pour l'utilisation de leur vaccin chez les enfants de 12 à 15 ans. Pour le dépistage, et s'il suffisait de mesurer la présence du virus dans l'air expiré, comme pour un éthylotest. C'est l'appareil testé depuis quelques semaines au centre de dépistage de Lyon-Gerland. Expérimentation dont les hospices de Lyon viennent de délivrer les premiers résultats, Jean-Luc Boujon.
Oui, et pour l'instant, Patrick, eh bien, les données dont on dispose sont assez bluffantes, hein, puisque les tests qu'on a pratiqués avec cet appareil sur des personnes malades à l'hôpital de la Croix-Rousse sont identiques à 95% aux résultats des tests PCR classiques avec lesquels on les a comparés. C'est donc un taux de fiabilité très fort, indiquent les médecins. Pour un système très simple d'utilisation, il suffit de souffler durant une vingtaine de secondes dans un tuyau comme cela.
Vous allez devoir souffler de manière constante tout en regardant la flèche qui devra être dans le verre à peu près au milieu. Je vous donne mon taux de départ. C'est super, merci beaucoup.
Vous voyez, ça n'a pas pris bien longtemps. Et ce qui est très rapide aussi, c'est l'obtention du résultat, explique le professeur Christian Georges, directeur de recherche et qui pilote le projet au CNRS.
Ce qu'on regarde, en fait, c'est des composés organiques volatiles présents dans l'air. On en analyse plusieurs milliers par seconde. Et en fait, on a pu identifier une empreinte chimique spécifique à la Covid. La durée, c'est quelques secondes à des endroits où il y a besoin d'avoir un flux très important et un nombre très important de tests, comme la salle de concert, un stade de foot, un aéroport. Même à l'entrée des urgences, hein, par exemple, on peut très bien, à ce moment-là, se poser tout de suite la question, éliminer le Covid, pas Covid, et orienter rapidement les personnes dans les bons services, par exemple.
Voilà, vous imaginez l'espoir, hein. Cela permettrait un dépistage ultra rapide et de masse. Alors là, on a eu les premiers résultats, effectivement. Désormais, on teste des personnes pas forcément malades ou asymptomatiques pour voir si le taux de fiabilité sur ce public-là est aussi fort. Des résultats consolidés pourraient être obtenus fin juin, dans quelques semaines. Donc l'espoir de pouvoir utiliser ces éthylotests Covid n'est pas si éloigné que cela.
Jean-Luc Boujon, direct de Lyon. On devrait avoir ce soir les réponses aux questions que se posent tous les Français. Quand les terrasses rouvriront, la vaccination sera-t-elle élargie? Pourra-t-on bientôt retourner au musée ou au cinéma? Emmanuel Macron s'apprête à dévoiler les perspectives du déconfinement dans un entretien à la presse régionale qui sera connu ce soir. Cet après-midi, le président assistera aux obsèques privées de Stéphanie Monfermé, la fonctionnaire de police assassinée par un individu radicalisé vendredi dernier à Rambouillet. Les militaires signataires de la tribune publiée par Valeurs Actuelles contre le délitement de la France seront sanctionnés. Le chef d'état-major des armées, le général Lecointre, les rappelle ce matin à une obligation de neutralité et d'exemplarité. Didier François, quelles sanctions et pour qui ?
Alors, bah, les sanctions, ça va être simple. Hein. Ça sera une mise à la retraite d'office des 18 officiers d'active et des 20 généraux en deuxième section qui ont signé cette tribune. Hein. C'est ce qu'a clairement annoncé effectivement le général François Lecointre, qui étant chef d'état-major des armées et le supérieur hiérarchique de tout ce petit monde qui semble avoir oublié les règles élémentaires de fonctionnement des armées, à commencer par 1. Le devoir des réserves, 2. Le respect de la chaîne de commandement. Donc, on a le droit de penser absolument ce qu'on veut en tant qu'officier. On a même le droit de s'exprimer dans la vie publique, mais sans jamais, au grand jamais, faire état de sa qualité de militaire. Cela est valable et sans dérogation pour tous les cadres d'actifs de la réserve opérationnelle et pour les généraux dits en deuxième section, qui sont en fait une des sortes de généraux de réserve et qui, à ce titre, sont soumis au statut spécifique des militaires. Ils le savent parfaitement et puisqu'ils assurent vouloir mettre un terme au laxisme ambiant, eh bien, il s'agira de réaffirmer l'exemplarité du commandement par une application stricte des procédures, une convocation individuelle devant le Conseil supérieur militaire, suivi d'une radiation des cadres et donc une mise à la retraite d'office.
Merci Didier François, c'est très clair, mais la grande muette ne l'est pas toujours. Il y a un précédent fameux en 2008 avec une tribune de haut gradé sous le pseudonyme de Surcouf, Louis de Ragnel.
Oui, nous sommes alors en 2008 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Opposé au livre blanc sur la restructuration des armées, un collectif d'officiers généraux publie une tribune dans le Figaro pour dire tout le mal qu'ils en pensent. L'affaire fait grand bruit, d'autant que contrairement aux généraux signataires de la pétition qui fait polémique aujourd'hui, les officiers supérieurs de l'époque sont tous d'actifs et pas à la retraite. Nicolas Sarkozy demande immédiatement qu'une enquête soit menée par le service interne de renseignement des armées qui parvient à identifier formellement plusieurs signataires dont certains sont stagiaires du Centre des hautes études militaires, c'est-à-dire l'école qui forme les généraux. Et double ironie de l'histoire, premièrement, nombre de futurs généraux de l'époque occupent aujourd'hui de hautes fonctions dans les états-majors. Deuxièmement, le ministre de la Défense de l'époque, Hervé Morin, avait appelé à ce que des sanctions soient prises dans un entretien à Valeurs Actuelles, le même hebdomadaire qui a publié la semaine dernière la pétition qui fait grand bruit. Finalement, le chef d'état-major des armées de l'époque, le général Georges Lain, aujourd'hui proche d'Emmanuel Macron, avait appelé à l'apaisement et personne n'avait été sanctionné.
Louis de Ragnel.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Une pause avant de partir aux États-Unis où Joe Biden défend réforme, justice sociale et impôts pour les plus riches. Aura-t-il les moyens politiques de ses promesses ? Joe Biden a prononcé en tout cas pour ses 100 jours un discours de transformation de l'Amérique, plus ambitieux sans doute que Barack Obama ne l'a jamais été, avec des milliards de dollars pour la relance, l'emploi, les infrastructures, l'école, la justice sociale, un appel aux plus riches à payer leur juste part et des accents résolument optimistes. Alexis Guilleux.
Oui, après 100 jours de mandat et une campagne vaccinale réussie, Joe Biden a affiché sa confiance. America. L'Amérique va de nouveau de l'avant, l'Amérique est prête à redécoller. Joe Biden endosse le costume de la relance, de la réforme, il défend son plan d'investissement pour les infrastructures et les emplois. Le président en promet des millions, notamment dans la transition écologique. Pendant trop longtemps, nous n'avons pas utilisé le mot le plus important quand on parle de faire face à la crise climatique, l'emploi. Quand je pense climat, je pense création d'emplois, dit Joe Biden. Il parle d'un projet destiné à la classe moyenne. Autre volet présenté, le plan pour les familles américaines pour améliorer l'accès à l'éducation et réduire les inégalités. Au total, 6 000 milliards de dollars ont été mis sur la table depuis le début du mandat, financés par la hausse des impôts des entreprises et des plus riches. Il est temps pour l'Amérique des entreprises et le 1% des Américains les plus riches de commencer à payer leur part. Concernant les réformes sociétales, Joe Biden demande au Congrès de passer à l'action sur l'immigration, le contrôle des armes à feu et la réforme de la police. C'est d'ailleurs ce dossier qui occupera désormais les sénateurs. Joe Biden espère son adoption avant le 25 mai et le premier anniversaire de la mort de George Floyd.
Alexis Guilleux aux États-Unis pour Europe 1. En Allemagne, le plan climat d'Angela Merkel, retoqué par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, la plus haute juridiction du pays, les objectifs fixés par le gouvernement sont jugés insuffisants et pas conformes aux droits fondamentaux. L'Allemagne aura jusqu'à fin 2022 pour améliorer sa copie. En France, la reddition ce matin d'un ex-brigadiste italien, Luigi Bergamine, l'un des trois membres de l'extrême gauche italienne qui était recherché en vue d'une extradition, s'est rendu ce matin auprès de son avocat. Il était recherché pour assassinat. Selon la presse italienne, il est considéré comme l'un des commanditaires de l'assassinat en 78 d'Antonio Santaro, un gardien de prison tué par l'écrivain Cesare Battisti. On revient dans un instant sur cette histoire qui fait la une de toute la presse italienne avec notre invité Simonetta Greggio. Paris battu en Ligue des Champions, donc 2-1, ce n'était pas écrit d'avance face à Manchester City. La première mi-temps a été bien maîtrisée et puis on a vu ensuite les Parisiens sombrer progressivement. Pour quelles raisons, Julien Froment ? Tactique, physique, mentale ?
Eh bien, il y a un peu de tout ça, Patrick, dans cette défaite du Paris Saint-Germain. Cette seconde période, vous l'avez dit, il y a une sorte de coupure de courant en fait du côté du PSG. Les stars aux abonnés absents, Neymar nerveux, Mbappé incapable de frapper une seule fois au but et des erreurs de débutants amenant justement aux deux réalisations de Manchester City. Pour notre consultant, Giroud, c'est un problème de condition physique.
Je dirais que je comparais ça à un 1500 mètres des Jeux Olympiques. Un athlète qui fait une première moitié de course très au-dessus de ses moyens s'écroule forcément dans la deuxième moitié. Je pense qu'ils ont fait la première mi-temps en sur-régime et qu'ils n'avaient plus rien dans les chaussettes en deuxième mi-temps. Ils ont à ce moment-là montré tous leurs défauts.
Et faillite physique, faillite tactique également. Le PSG a perdu le match sur le tableau noir. L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a apporté des modifications qui ont fait la différence désormais. Le Paris Saint-Germain est contraint à l'exploit la semaine prochaine. Seulement 7% des équipes battues 2-1 à domicile sont parvenues à se qualifier.
Match retour donc le...
Mardi prochain.
Mardi prochain, on va suivre à Manchester. Hein.
À Manchester.
Évidemment, forcément. Merci beaucoup Julien Froment. Le temps, Anissa Dadi. Un temps maussade dans le sud.
Oui, une fois de plus, Patrick, la France est coupée en deux. Alors, au sud d'une ligne qui va de Bordeaux jusqu'à Besançon, là, nous avons un temps agité avec un ciel couvert. Toutes les régions sont concernées. On a de nombreuses averses tout au long de l'après-midi. Sur les Pyrénées, il neige, même à partir de 2000 mètres d'altitude. Et puis, du Lyonnais jusqu'à la Provence, là, nous avons des pluies assez soutenues avec même des coups de tonnerre du côté des Alpes-Maritimes. Sur la moitié nord, le temps est plus calme, plus lumineux, avec sur les Ardennes, le centre-Val de Loire et la Bretagne des petites averses cet après-midi. Mais il fait quand même bien meilleur sur la moitié nord du pays. Côté température, ça baisse. Nous sommes en dessous des normales de saison avec 10 degrés à Dunkerque, 12 à Lille, 14 à Pau et Rouen cet après-midi, 15 degrés à Paris et à Lyon, 16 à Bordeaux, 18 à Strasbourg et la maximale est prévue pour Bastia avec 20 degrés. On va rester vigilant, Patrick, parce que à partir d'aujourd'hui commencent 3 jours de très fortes pluies dans le sud-est. La journée de samedi sera la plus critique avec l'équivalent d'un mois de précipitation attendu pour la seule journée de samedi. Donc on va surveiller ce qui se passe dans le sud-est.
Et effectivement, Laurent Cabrol nous a alerté dès ce matin, ça risque d'être violent et possiblement désastreux. Merci beaucoup Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Les années de plomb, cette période tragique de l'histoire italienne sont à la une de toute la presse en Italie ce matin après l'arrestation décidée par la France au plus haut niveau par Emmanuel Macron de 10 ex-activistes italiens condamnés dans leur pays pour assassinat. On en parle dans un instant avec notre invité Simonetta Greggio. Bonjour Simonetta Greggio.
Bonjour.
Romancière et traductrice italienne installée en France, vous avez vu hier comme tous les Italiens ressurgir ces fantômes des années de plomb, ces anciens activistes des années 70 et 80 condamnés pour crimes de sang et réfugiés en France. 7 d'entre eux ont donc été arrêtés, 2 autres sont recherchés. L'un vient de se rendre, on vient de le dire, en vue d'une extradition, mais il y aura sans doute des années de guérilla judiciaire. Vous avez vécu ces années-là en Italie, avec votre famille. Vous avez signé 2 romans qui racontent ces décennies tragiques, Dolce Vita et Les Nouveaux Monstres. Que vous inspire ce coup de filet ?
Écoutez, hier, ça a été vraiment une espèce de pluie de messages. Est-ce que tu as vu ce qui se passe ? Maman m'a appelée en disant « Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser ?» Je dis « Mais maman, c'est pas à moi de te dire ce qu'il faut en penser, bon sang. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans qu'il y a des silences, des ombres rouges et noires sur tout cela. Et ça fait 40 ans qu'on ne veut pas réellement savoir ce qui s'est passé. On ne veut pas affronter les choses. Vous savez, je pense qu'un pays fort, un pays qui a une forte constitution comme l'Italie, doit faire les comptes avec son passé. Et on a l'impression que tout ça était toujours un peu... Voilà, c'était pas le moment, et puis c'était pas... On n'avait pas les moyens, et puis les archives n'avaient pas été désécrétées, etc., etc. Il me semble que... Enfin, posez-moi la question, mais même sans que vous me posiez la question, je vais vous répondre. Mais il me semble que ça arrive à un moment où, bien sûr... Il faut payer pour ce qu'on a fait. Mais bien sûr, il faut que les choses soient faites pas de cette manière-là. Et bien sûr que tout ça arrive un moment où Super Mario a besoin de bien montrer...
Mario Draghi, le président du conseil.
Mario Draghi a très besoin de montrer comme il est fort, comme c'est un super chef du gouvernement. Comme tous les milliards qu'il va demander à l'Europe, il a besoin quand même de les justifier. Et comment Macron est juste en train de faire des énormes clins d'œil à sa droite. Donc voilà, c'est ça que je regrette, si vous voulez. C'est-à-dire que tout ça est fait comme d'habitude, dans la précipitation, un peu dans n'importe quoi, excusez-moi de vous le dire, mais c'est ce que je pense.
Il y a une opportunité politique, c'est ça que vous voulez dire, Simonetta Greggio.
Sans doute.
Et c'est sans doute incontestable, mais pour revenir au fond, d'abord la réaction des Italiens. En Italie, la décision est saluée comme un geste historique. Je vous livre quelques titres de la presse italienne ce matin. Fin de cavale, il messaggero. Année de plomb, la blessure guérie, la stampa. Année de plomb, dernier acte, la Repubblica, avec à la une la photo d'une scène de crime et 6 pages consacrées à l'arrestation des ombres rouges de Paris. Vous voyez l'impact considérable que ça a ce matin, en Italie, cette décision française.
Évidemment, mais en Italie comme en France, on fait semblant aussi d'avoir oublié ce qu'étaient ces années-là. Alors, moi, j'étais gamine, à peine plus jeune finalement que tous ces terroristes qui sont arrivés en France.
Non, plus jeune.
Non, vous voyez, moi, je suis arrivée en France en 81, j'avais 21 ans. Ils avaient quoi, 4-5 ans de plus que moi. Donc, en fait, on est absolument de la même génération. Mais c'est comme si un énorme brouillard pesait sur ces années. Et c'est pour ça que j'aimerais bien, si on a 3 minutes, faire un tout petit peu l'histoire de tout ça, voir d'où ça vient.
Oui. Après avoir dit quand même le bilan qui est faramineux, considérable, entre 69 et 80, l'Italie a subi plus de 12 000 attentats qui ont provoqué 362 morts. Pas tous de l'extrême gauche, parce que l'extrême droite s'en est mêlée, évidemment, et il y a eu l'attentat de la gare de Bologne qui a fait environ 80 morts. Et depuis, ce sont les proches des victimes qui se font entendre. Et avant de revenir sur ces années-là, je voulais juste vous demander, Simonetta Greggio, est-ce que les Français n'avaient pas oublié qu'il y a aussi des familles qui réclament justice depuis des années en Italie ?
Mais bien sûr, alors tout ça, ça a été oublié, mais même en Italie, hein, pendant des années. Mais les familles ont fait en sorte qu'on ne les oublie pas. Et comme maintenant les victimes sont remises quelque part sur le devant de la scène, comme il est juste que ce soit, c'est normal que l'accent ne soit plus sur les héros de droite ou de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui ont fait l'histoire, mais aussi sur tous ceux qui, depuis 40 ans, pleurent tous les jours ce qu'ils ont perdu. Donc évidemment que tout ça est absolument... C'est bien que tout ça revienne. Ce que je regrette, c'est que ça revienne comme ça. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on fasse les comptes d'une manière plus juste et plus juridiquement, peut-être, là où il faut... Voilà.
Et notamment sur la responsabilité des dirigeants de l'époque, de l'État italien, d'une partie de l'appareil d'État italien. C'est ça aussi que vous avez cherché à explorer dans vos travaux, dans vos livres.
Bah, vous savez, moi, j'ai une blessure à ma patrie. Même si je suis ici en France depuis 40 ans, l'Italie, pour moi, est le lieu où j'ai mal au cœur. Donc, évidemment, dans mes livres, dans Dolce Vita, dans Les Nouveaux Monstres, dans le prochain qui va paraître au mois d'août, qui s'appelle Bellissima, je retrace toutes ces années qui sont pour moi les années non seulement d'enfance et d'adolescence, de jeunesse, mais qui étaient des années de sang. Il ne faut pas oublier que nous étions plongés dans le sang. C'était un brouillard de sang autour de nous et notre démocratie italienne a été mise très à mal à ce moment-là. Mais pour autant, ce n'est pas une fausse démocratie, ça a été une démocratie blindée, une démocratie avec plein de tares, plein de failles. Mais c'est resté quand même une démocratie. J'ai l'impression parfois, en parlant avec des intellectuels français, qu'on oublie. Enfin, il y a un côté un peu romantique dans le fait de considérer ces extrémistes de gauche qui ont quand même fait le coup de main comme des partisans qui ont lutté pour la belle Italie, tout ça. Non, c'était une vraie bagarre, c'était une vraie guerre civile. Ça a été très, très dur, très noir, très moche et très sanglant.
Très sanglant.
Et ces gens qui sont venus en France il y a 40 ans ont quand même mis de côté toute cette violence. Ils n'ont plus jamais remis les mains dans cet énorme magma.
Ils ont refait complètement leur vie.
Totalement.
Et le plus souvent, au grand jour en exerçant des professions publiques, comme chez Zaré Battisti, par exemple, l'écrivain qui...
Il suffisait d'ouvrir un bottin téléphonique pour les trouver. Alors les ombreros, excusez-moi, ça me laisse un peu perplexe, vous voyez, ce côté un peu investigation de quoi ? Il suffisait de les voir, ils sont avocats.
Non, ça résulte d'une volonté politique et de rien d'autre.
Alors, c'est pour ça que j'aimerais remettre un peu les choses à leur place, c'est-à-dire que oui, ces gens sont coupables, mais oui, l'Italie s'est rendue coupable aussi de torture, s'est rendue coupable de dérapage, s'est rendue coupable de dépistage, et il ne faut pas oublier que toute l'extrême droite et tous les attentats d'extrême droite ont été tenus par la main, d'une certaine manière,
absolument,
par l'État et par les services, par une partie des services secrets italiens. Donc voilà, si vous voulez, il faut remettre les choses un petit peu en équilibre et non pas crier comme l'Italie le fait à cette espèce de victoire qui n'en est pas une, parce que c'est une victoire qui fait mal au cœur, et comme la France l'a fait la semaine dernière avec la Tribune du Monde, avec un romantisme qui n'a pas lieu d'être non plus. Voilà.
Ces militants, Simonetta Greggio, souvent ex-Brigade Rouge, mais pas seulement, ils sont âgés de 62 à 77 ans. Vous en connaissez certains ? Vous en avez croisé ?
Oui, j'en ai croisé certains parce qu'après avoir écrit Dolce Vita, certains d'entre eux m'ont écrit ont essayé de me contacter. J'ai été contactée par les services secrets d'une manière assez bizarre. J'ai été contactée par ces...
Les services italiens ?
Italiens, absolument. Oui. D'une manière assez bizarre, assez curieuse, qui ont essayé de savoir ce que je... Ce que je savais, je l'ai mis dans les livres, patate, t'as qu'à le lire. Donc, et d'un autre côté, donc, ces anciens terroristes m'ont fait signe, m'ont fait un peu des signes de pied. Et j'ai été très touchée par l'un d'entre eux, dont je ne dirai pas le nom, qui m'a un peu raconté son histoire personnelle. Son père a tué sa mère quand il avait 14 ans. Il s'est retrouvé à 15 ans sur la route et il s'est retrouvé très proche des Brigades Rouges, comme on se retrouve dans une vicissitude de la vie, si vous voulez. Ensuite, il a quand même fait des conneries. Il est venu en France, il a refait sa vie. Mais le soir où on a parlé de tout ça, on a parlé de Piazza Fontana, donc le 12 décembre 1969, et je lui ai dit... Est-ce que c'est à partir de ce moment-là, puisqu'on a à peu près le même âge, que tu as senti qu'on était trahi par l'Italie ? Et à ce moment-là, il s'est levé de table et il est parti aux toilettes. Et en fait, il pleurait.
Rappelez-nous ce qu'était Piazza Fontana.
Piazza Fontana, qui est appelée la mère de tous les massacres, est le premier massacre d'État. C'est-à-dire que une bombe a été posée dans une banque milanaise par deux hommes d'extrême droite, et avec le concours des services secrets italiens. Et ça a été, après, si vous voulez, c'était le début de la stratégie de la tension, le début de du chrononyme « Les années de plomb ». Pourquoi ? Parce qu'il fallait, d'une certaine manière, apaiser une Italie qui était au bord, disait-on, de la guerre civile.
Et ça a été une série de crimes épouvantables. Vous le rappelez dans vos livres, on n'a pas seulement tué des personnages haut placés, mais aussi des gardiens de prison, des policiers. Il y a eu des viols, il y a eu des choses ou des massacres aveugles. Vous préparez, vous l'avez dit, un prochain livre.
C'est prêt.
Bellissima à la rentrée chez Stock. Et puis je rappelle vos deux livres, Dolce Vita et Les Nouveaux Monstres. Merci beaucoup, Simonetta Greggio.
Merci, c'était formidable de pouvoir vous parler.
Merci à vous.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, d'autres infos, le 13h, puis la France bouge. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.